Édition spéciale au lendemain du bain de sang à Gaza. 55 Palestiniens ont été tués, 2400 autres blessés à la frontière. Un massacre, dit le président de l'autorité palestinienne. Au même moment, à 100 km de là, les États-Unis inauguraient officiellement leur ambassade à Jérusalem. Et aujourd'hui, les Palestiniens vont marquer la Nakba, le départ forcé de 700 000 Palestiniens à la création de l'État d'Israël en 1948. Alors, assiste-t-on au début d'un nouvel embrasement? Y a-t-il encore une place pour la paix? Avec Muriel Paradon du service international de RFI, on va se poser ces questions et bien d'autres. Dans les prochaines minutes, nous sommes avec Guilhem Delteille en direct de Gaza et deux invités, l'historien Vincent Lemire, auteur de Jérusalem, histoire d'une ville-monde. Bonjour.
Bonjour.
Et Xavier Guignard, chercheur et spécialiste de la Palestine au sein du groupe de réflexion Noria. Bonjour.
Bonjour.
RFI Matin,
édition spéciale,
Arnaud Pontus.
Et on prend immédiatement la direction de Gaza. Gaza, le jour d'après, au lendemain de cette journée la plus meurtrière depuis 2014. Bonjour Guilhem Delteille.
Bonjour Arnaud.
Vous êtes notre correspondant permanent en Israël et dans les territoires et on vous rejoint donc sur place. Quel est le climat ce matin à Gaza ?
La ville ce matin est assez calme. En fait, cette journée est une nouvelle journée de grève générale ici dans la bande de Gaza, comme ce fut le cas hier. Une journée de grève générale déclarée pour commémorer le 70e anniversaire de la Nakba. Vous le disiez, c'était cet exode de centaines de milliers, plus de 700 000 Palestiniens en 1948 à la suite de la création de l'État hébreu.
Qu'est-ce que l'on peut attendre de la journée qui s'ouvre? Est-ce que des manifestations sont prévues? Est-ce qu'elles ont déjà commencé, ces mobilisations?
Alors, les rassemblements aujourd'hui devraient être un petit peu plus tardifs qu'hier. Hier, les organisateurs avaient appelé à ce qu'ils voulaient être une marche du million, un million de personnes, espéraient-ils, dans les rues. Ils espéraient surtout en fait attirer un maximum de personnes le long de la frontière. Et les bus qui transportent les manifestants vers les points de rassemblement le long de la barrière de séparation avec Israël avaient commencé leurs allers-retours dès le début de la matinée. Aujourd'hui, on s'attend surtout à ce que la mobilisation, que ces rassemblements prennent de l'ampleur après la prière de la fin de matinée, mais la mobilisation pourrait être tout de même un petit peu moins forte qu'hier, même si cette journée, je vous le disais, est une nouvelle journée de grève nationale, ce qui laisse la possibilité aux Gazaouis d'aller manifester. Une autre inconnue, Arnaud, c'est cette question, est-ce que les manifestants s'approcheront-ils encore de la barrière aujourd'hui? Ils le font de plus en plus depuis le début de ce mouvement. Hier soir, les organisateurs de la marche ont toutefois demandé aux manifestants de s'éloigner de la barrière afin d'arrêter de faire couler le sang, mais ce mot d'ordre ne valait que pour la fin de la journée hier. Aujourd'hui, ils devraient probablement à nouveau tenter de franchir cette barrière de séparation.
Merci Guilhem, on vous retrouve un petit peu plus tard. Vincent Lemire, je rappelle que vous êtes historien, que vous avez dirigé la publication de Jérusalem, histoire d'une ville-monde. Est-ce que vous avez été surpris par ce qui s'est passé hier à Gaza ?
Écoutez, l'ampleur du massacre, oui, nous a tous surpris. Par contre, dès le 6 décembre, on savait que ce jour d'inauguration serait un jour terrible. Ce qu'on ne savait pas, c'est que Trump allait jusqu'à l'ultime provocation d'ouvrir son ambassade la veille de la Nakba. Donc là, il y a eu une prise de risque maximum et il y a évidemment une responsabilité américaine, je veux dire, dans les faits. Le fait de décider d'ouvrir l'ambassade ce jour-là,
trop de symboles accumulés, trop de symboles historiques
accumulés. Les risques, voilà. Et depuis six semaines, on a vu avec l'organisation de ces fameuses marches du retour à Gaza, qui était très très importante quand même le premier vendredi, mais on avait 17 morts le premier vendredi, on avait l'impression que c'était déjà énorme. Puis ensuite, c'était un petit peu moins fort. On a eu l'impression, effectivement, on en parlait tout à l'heure, que les règles d'engagement de l'armée israélienne s'étaient modifiées. Beaucoup moins de morts, beaucoup plus de blessés graves aux jambes, on va peut-être en reparler. Et puis, hier, voilà, on savait que c'était le point culminant. Il faut savoir que le calendrier, c'est pas seulement la Nakba, on a eu ce qu'on appelle en Israël le Jerusalem Day, dimanche, donc des manifestations très importantes de la droite religieuse israélienne dans les rues de Jérusalem. C'est toujours un moment de tension extrême, avec 1600... juifs religieux qui sont montés sur l'esplanade des mosquées, record absolu depuis la guerre des six jours. Ça, c'était dimanche. Lundi, ouverture de l'ambassade. Aujourd'hui, Nakba. Mercredi, jeudi, début du ramadan. Ce qui veut dire que pendant un mois, tous les soirs, la jeunesse palestinienne va être dans les rues. Oui. Et donc, on est effectivement face à un début de séquence qui est terrible. Moi, je suis assez d'accord avec Guilhem. J'espère, enfin, je pense que la journée d'aujourd'hui sera d'une certaine manière plus calme. Ne serait-ce que parce qu'il faut enterrer les morts et soigner les blessés. Mais effectivement, on n'est pas à la fin de cette séquence.
Xavier Guignard, je rappelle que vous êtes chercheur spécialiste de la Palestine. Est-ce que ce qu'on a vécu hier à Gaza marque un tournant dans l'histoire du conflit ?
Alors, dans l'histoire du conflit, j'espère qu'on y reviendra un peu plus tard, mais en tout cas, de l'histoire de ces 6 dernières semaines, c'est certain. Parce que, comme le rappelait Vincent, on est passé de 41 morts sur 6 semaines à 58 en une journée hier, 58 morts par balle et plus de 1300 blessés par balle. Donc, on a passé un seuil, en tout cas, dans la répression et dans le traitement sécuritaire qu'Israël fait de ces manifestations qui, hier, n'ont pas changé en nature par rapport aux 6 dernières semaines. Elles ont pris de l'ampleur, c'est certain, mais elles n'ont pas changé en nature. Il n'y a eu aucun franchissement de la barrière de sécurité. Les manifestants gazaouis sont restés du côté de la zone, dans la bande de Gaza. Il n'y a eu aucune atteinte à la barrière de sécurité. Et donc là, on est en mesure de se demander effectivement aujourd'hui quel va être le degré de répression et surtout comment on interprète ce changement dans la répression israélienne. Ce qui est certain, c'est que les soldats se sentent avoir les coudées franches. Quand on parle de 58 morts aujourd'hui, il faut bien imaginer qu'on n'a pas des affrontements en face à face. On a des rangées de snipers alignés sur des monticules de terre, protégés par des drones, protégés par une aviation, séparés des manifestants de plusieurs centaines de mètres, et donc qui tirent à vue sur des civils. Et de l'aveu même de l'armée israélienne, il n'y a pas eu une balle tirée depuis Gaza sur eux.
Il n'y a pas de blessés et il n'y a pas de victimes côté israélien d'ailleurs.
Non, aucune.
Les autorités israéliennes disent avoir simplement protégé leurs frontières. Benjamin Netanyahou plaide la légitime défense et c'est un point de vue partagé notamment par le député travailliste israélien et ex-porte-parole de l'armée, Nachman Shai.
Ne nous trompons pas. Nous n'assistons pas à un soulèvement populaire à Gaza. Ce ne sont pas des manifestations, mais une attaque terroriste sur la frontière avec Israël. Israël est sorti de Gaza. Israël n'a aucun intérêt à entrer à nouveau dans ce territoire. Mais le Hamas mène vers la mort des dizaines de milliers, peut-être même des centaines de milliers de Palestiniens qui vivent là-bas. Cela se passe tous les jours et la responsabilité de la situation incombe à cette organisation. Je regrette chaque perte de vie humaine, mais Israël doit protéger sa souveraineté. C'est ce que font toutes les nations et nous le faisons aussi.
Le député travailliste israélien Nachman Shai, propos recueillis par Michel Paul. À l'inverse, du côté des Gazaouis, les manifestants, les marcheurs, eux, ils accusent Israël.
Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun soldat israélien tué, aucun soldat israélien blessé. Les gens restent pacifiques, mais Israël nous pousse, nous les Palestiniens, vers la violence. Israël veut de la violence. Israël ne sait pas comment gérer les marches pacifiques. Donc Israël fait couler beaucoup de sang, crée des martyrs, blesse des gens pour nous pousser vers la violence. Israël porte la responsabilité de ce qu'il se passe.
Voilà, témoignage recueilli à Gaza par Guilhem Deltaï qui me signale que l'armée israélienne a indiqué qu'il y avait eu des tirs du côté des Gazaouis, des tirs en leur direction. Vincent Lemire, est-ce qu'on peut tenir Donald Trump pour responsable de ce qui s'est passé hier ?
Oui, pour l'instant, sa ligne de défense, c'est tous les présidents américains l'avaient promis et je l'ai fait. Il faut rappeler quelques faits. Le Embassy Act de 1995 avait été piloté par Bob Dole, qui était à l'époque un élu républicain, qui faisait campagne pour les primaires et qui était allié à l'époque avec un certain Benjamin Netanyahou, qui était leader de l'opposition du Likoud. Et on était en 1995 et il s'agissait de torpiller le processus de paix à l'époque. Vous savez ce qu'on appelait le processus de paix qui avait été lancé en 1993-1994, au siècle dernier. Et donc, ce Embassy Act de 1995 était fait pour torpiller le processus de paix. Donc, ça arrive 23 ans après. Mais ensuite, donc effectivement, Bill Clinton avait eu l'intelligence politique et géopolitique d'imposer ce décret présidentiel qui faisait de 6 mois en 6 mois, cette décision pouvait être reportée. Mais ensuite, Trump aurait pu, à la limite, tenir sa promesse, puisque franchement, je crois que c'est son agenda principal. C'est les midterms et puis cocher ses promesses électorales.
Et tenir ses promesses une à une,
Mais il aurait pu faire quelque chose de... Ça a été, je le sors pas de mon chapeau, ça a été dit dans la presse israélienne, etc. Il pouvait ouvrir 2 ambassades. ou il pouvait en tout cas annoncer qu'il en ouvrait une à Jérusalem-Ouest, peut-être un peu plus loin d'ailleurs que ce qu'il a fait, parce que là, il l'a fait à Jérusalem-Ouest, mais sur la ligne avec la Cisjordanie, et puis promettre qu'il allait ouvrir une deuxième ambassade à la fin des négociations à Jérusalem-Est auprès de l'État de Palestine.
Il y avait d'autres solutions, et c'était compatible avec l'histoire même de Jérusalem, Vincent Lemire ?
Mais c'était non seulement compatible, mais c'était cohérent, parce que si on rentre un tout petit peu dans les détails, voilà, rappeler que 40% de la population de Jérusalem est palestinienne, qu'on arrive à 80-90% quand on est dans la vieille ville. La vieille ville de Jérusalem, c'est 35 000 habitants, 3 à 4 000 juifs israéliens. D'accord. Donc Jérusalem n'est pas une ville israélienne, c'est même la ville la moins israélienne d'Israël. Ouais, ça c'est la, ça c'est la démographie.
Ce que disent les autorités israéliennes qui répètent à l'envi que Jérusalem est la capitale des Juifs depuis des centaines d'années.
Mais ils ont entièrement raison. Mmh. Ils ont entièrement raison. Et l'historien que je suis n'est jamais rentré ouais. dans une minute de débat là-dessus. Ouais. Jérusalem est la capitale d'Israël. Jérusalem est la capitale historique du peuple juif et Jérusalem Ouest dans les frontières de 49. Et la capitale fonctionnelle d'Israël, Knesset, présidence, etc. Mais c'est aussi la plus grande ville palestinienne et ce sera aussi la capitale de l'État de Palestine quand il adviendra. Donc, je crois qu'il ne faut pas discuter sur le principe, il faut discuter sur les modalités. Et là, encore une fois, Trump a pris un risque majeur. Et le problème de la séquence dans laquelle on est, c'est qu'on a Netanyahou qui est allié avec l'extrême droite israélienne est la droite la plus extrême. Mais le problème, c'est que pour la première fois dans sa vie politique, il a en face de lui un allié à Washington. La première fois, il avait Bill Clinton pendant son premier mandat. La deuxième fois, il avait Obama.
Donc il a carte blanche,
il n'y a plus de pédale de frein. Il n'y a plus de pédale de frein. Et donc, on a Trump et Netanyahou qui s'auto-entretiennent dans une espèce de passage à l'acte et de provocation permanente qui va vers le pire. Hein, et vers le pire, c'est-à-dire y compris... Ce qu'on peut lire, ce que j'ai lu sous la plume de Gideon Levy là, à Haaretz hier, c'est-à-dire un État binational de facto avec une occupation qui se poursuit et des nouvelles formes de mobilisation qu'on va ensuite voir apparaître du côté palestinien.
Xavier Guignard, c'est bien le transfert de l'ambassade qui a mené hier ces milliers de Palestiniens vers la frontière ?
Alors c'est certainement ça hier qui a marqué les esprits. Je pense que cette séquence, elle est aussi à mettre en lien avec les mobilisations des 6 dernières semaines qu'on appelle la marche du retour. Il ne faut pas passer trop vite sur cette expression, puisqu'il est là question d'un changement de mot d'ordre chez les Gazaouis qui demandent plus simplement la levée du blocus ou la reconstruction dont tout le monde aujourd'hui sait qu'elle est illusoire. Gaza est aujourd'hui pratiquement dans le même état qu'en 2014. Il a été question là de dire 70 ans après la Nakba, on remet la question du retour sur le devant de la scène. Alors, dans cette perspective, évidemment, l'implantation de l'ambassade israélienne à Jérusalem sur la ligne de démarcation donne matière à cette revendication. Mais il n'y a pas d'opposition entre ces deux slogans, à mon avis, à la fois dénoncer l'implantation américaine, dénoncer le soutien sans faille que vient de décrire Vincent Lemire de l'administration américaine à Netanyahou. Et puis, ça s'inscrit dans cette dimension populaire qui est difficile à nier, d'une marche pour le retour.
On va revenir sur les éléments autour de cette marche pour le retour, qui est une nouvelle forme de mobilisation du côté de Gaza. Vincent Lemire, vous avez d'autres engagements, donc on va vous relâcher, si je puis dire. En tant qu'historien, et vous n'êtes pas Madame Irma, comment est-ce que vous voyez les choses évoluer dans les tout prochains jours ?
Les tout prochains jours, je ne sais pas, mais... Effectivement, en tant qu'historien, on peut dire qu'il y a deux bascules historiques majeures. La première, c'est qu'il n'y a plus de médiateurs dans le conflit. Ça, tout le monde l'a constaté depuis le 6 décembre.
Oui, les Américains sont hors jeu, là.
Voilà, les Américains sont hors jeu, ils sont mis en jeu. Ils se sont levés de leur chaise de médiateur et ils sont venus s'asseoir sur les genoux de Netanyahou. Mmh. Moi, que ce soit Netanyahou qui soit assis sur les genoux de Trump. Donc, il n'y a plus de médiateurs dans le conflit. Donc, il n'y a plus de processus de paix. On le savait depuis quelques années, mais enfin là, voilà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la solution à deux États, plus personne n'y croit, mais plus personne n'en veut. Y compris les Palestiniens, y compris l'encadrement politique palestinien, le Fatah lui-même parle ouvertement d'un nouvel agenda politique, c'est-à-dire de dire on est en fait dans la situation, je reprends les mots du Fatah, de l'Afrique du Sud dans les années 80. Il faut se battre pour une égalité des droits dans une société d'apartheid, je reprends encore les termes du Fatah. On sent que ça prend dans la rue palestinienne et que ça va être voilà, la nouvelle séquence géopolitique qui s'ouvre devant nous. Il faut oublier les mots de processus de paix. Il faut oublier tous ces mots-là qui sont définitivement enterrés aujourd'hui.
Merci Vincent Lemire.
Vous écoutez RFI les 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Dans 3 minutes, suite de cette édition spéciale après les événements d'hier à Gaza, notre invité est toujours avec nous, Xavier Guignard, chercheur et spécialiste de la Palestine. Muriel Paradon du service international reste également à mes côtés. On entendra ce que dit la presse française de tout cela, mais aussi la presse africaine. Nous appellerons aux États-Unis Éric de Salve et à Bruxelles Pierre Benazé. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité. C'est avec Xavier Besson.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Après la journée sanglante d'hier, les Palestiniens doivent commémorer aujourd'hui la Nakba, la catastrophe qu'a été pour eux la création de l'État d'Israël, synonyme d'exode pour des centaines de milliers de personnes. Hier donc, près de 60 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Hier, jour de l'anniversaire de la proclamation d'Israël, jour aussi de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Parmi les réactions internationales, la Turquie et l'Afrique du Sud ont décidé de rappeler leur ambassadeur. L'Iran évoque un jour de grande honte. L'UE et la Grande-Bretagne appellent à la retenue, tandis que la France condamne les violences contre les manifestants. Donald Trump, de son côté, a juste commenté l'ouverture de l'ambassade, parlant d'un grand jour pour Israël. La diplomatie de la Côte d'Ivoire, de son côté, tient à souligner que, contrairement à ce qui a été écrit dans la presse israélienne, elle n'a pas dépêché de représentants pour cette inauguration. Après Pékin et Moscou, le chef de la diplomatie iranienne est à Bruxelles. Il y rencontrera notamment ses homologues européens, français, allemands et britanniques. Mohamed Jawad Zarif, qui achève ainsi sa tournée destinée à tenter de sauver l'accord sur le programme nucléaire iranien, accord lâché par Donald Trump. Ils sont plus de 600 en République démocratique du Congo. La liste des partis politiques autorisés à fonctionner et donc à prendre part aux élections prévues à la fin de l'année, elle a été publiée au journal officiel. 599 partis, 77 regroupements politiques. Dans cette liste, il y a des doublons. On trouve par exemple 4 entrées pour l'UDPS, le nom du principal parti d'opposition. L'association congolaise pour l'accès à la justice dénonce une situation créée à dessein pour déstabiliser l'opposition et qui pourrait générer des violences. À Brazzaville, après la semaine dernière, le procès de Jean-Marie Michel Mokoko et sa condamnation à 20 ans de prison, notamment pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est un autre ancien proche du président Sassou Nguesso qui est jugé à partir d'aujourd'hui. Le général Norbert Dabira accusé, lui, d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il nie toute implication dans les faits incriminés. Les auditions des leaders de la société civile du Niger, emprisonnés depuis plus d'un mois et demi, elles ont débuté hier après-midi et doivent se poursuivre toute la semaine. Au total, ils sont une vingtaine. Ils avaient été arrêtés à Niamey et à Zinder alors qu'ils protestaient contre la loi de finances. L'heure du jugement en appel en France pour Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget, jugé pour fraude fiscale. En première instance, il avait été condamné à 3 ans de prison. 3 ans, c'est aussi ce qu'a requis le parquet lors de ce procès en appel. Et puis en football, on connaît depuis hier le nom de celui qui sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il s'agit de l'Allemand Thomas Tuchel, jusqu'alors coach de Dortmund. Il prend ainsi la succession d'Unai Emery, remercié notamment à cause de mauvais résultats en Coupe d'Europe. Il est 8h33 ici à Paris. Vous êtes avec Arnaud Pontus pour la suite de notre édition spéciale.
Merci Xavier Besson. Édition spéciale, Gaza, Jérusalem, le bain de sang d'un côté, l'inauguration de l'ambassade américaine de l'autre. Ce 14 mai 2017, les soldats israéliens ont tué une cinquantaine de Palestiniens à la frontière de la bande de Gaza. Il y a aussi 2400 blessés. La journée la plus meurtrière dans la région depuis 2014. Et aujourd'hui, les Palestiniens vont marquer la Nakba, le jour de la catastrophe, le jour où ils ont dû quitter le territoire pour laisser la place aux Israéliens. Nous sommes toujours avec Guilhem Deltey, en ligne de Gaza, notre envoyé spécial. Guilhem, est-ce que l'on sait comment les choses peuvent s'organiser au-delà de cette journée du 15 mai, au-delà de cette journée de la Nakba du côté des Palestiniens?
C'est vrai que le comité d'organisation de la marche, quand il avait annoncé le début de ce mouvement le 30 mars dernier, avait dit qu'il allait se poursuivre ce mouvement jusqu'au 15 mai, jusqu'à ces commémorations de la Nakba. Alors le 15 mai, nous y sommes désormais, et le comité d'organisation de la marche, eh bien, il promet de poursuivre ce mouvement. Il dit qu'il va entamer une nouvelle phase, mais cette nouvelle phase n'a pas été véritablement définie. Alors c'est vrai que pour l'instant, le mouvement n'a rien apporté. Le blocus de la bande de Gaza n'a pas été allégé, notamment pas par les Israéliens, pas par les Égyptiens non plus. Les organisateurs disent qu'ils ont réussi à remettre les questions des réfugiés et du blocus de Gaza au cœur du débat, du discours sur la question israélo-palestinienne. Mais force est de constater que c'est une victoire d'estime pour l'instant, symbolique, hein, uniquement. Les organisateurs pourrait, alors dans les prochains jours, vouloir temporiser un peu. Un indicateur en ce sens serait cet appel que je mentionnais tout à l'heure hier soir à quitter la zone tampon, mais cet appel ne valait que pour la fin de la journée afin d'éviter plus de sang hier. On verra comment les événements se passent aujourd'hui, car en même temps, les organisateurs sont face à un dilemme. Comment éviter la poursuite d'un bain de sang sans donner pour autant l'impression que c'est plus de 100 morts désormais, hein, depuis le 30 mars, ne sont pas morts pour rien.
Merci Guilhem Deltaï en direct de Gaza. Muriel Paradon, vous avez été la correspondante de RFI en Israël dans les territoires. Ce mouvement de la marche du retour, c'est quelque chose de nouveau apparu il y a quelques semaines. C'est donc une nouvelle forme de mobilisation à laquelle on assiste depuis la fin mars à Gaza.
Oui, c'est une nouvelle forme de mobilisation pacifique venue des jeunes, même si le Hamas au pouvoir à Gaza a encouragé les marches. Moi, ça me rappelle quand même d'autres formes de mobilisation. En fait, la jeunesse se dit l'intifada armée de leur père n'a servi à rien, les autorités palestiniennes sont apathiques, il faut se mobiliser différemment. Et moi, quand j'étais correspondante entre 2013 et 2016, il y a eu plusieurs formes de mobilisation différentes. Il y a eu ce qu'on a appelé l'intifada au couteau, vous savez, ces jeunes qui menaient des attaques de manière isolée, très jeunes parfois, qui se lançaient contre des soldats avec une paire de ciseaux parfois, et qui savaient qu'ils allaient mourir dans les minutes qui venaient. Là, c'est un peu pareil, on se jette contre la barrière de sécurité en sachant qu'on va au carton, excusez-moi l'expression, mais parce qu'en face, vous avez des snipers. Alors, certes, les Israéliens vous montrent des images de ces jeunes qui ont des lance-pierres, mais c'est complètement dérisoire face à la force de frappe des Israéliens. Il y a une forme suicidaire, mais pourquoi ? Parce que les jeunes Palestiniens sont sans espoir. Il faut savoir ce que c'est que Gaza. C'est une prison à ciel ouvert. Vous avez d'un côté cette entrée hyper bunkerisée pour entrer à Gaza avec des sas, des murs qui s'ouvrent, un corridor barbelé. De l'autre côté, à 50 km plus loin, vous avez la frontière égyptienne totalement fermée. Et puis, la mer sur le côté qui est contrôlée par Israël. Quand il y a eu la guerre à Gaza, par exemple, en 2014, il était impossible de sortir de la bande de Gaza. C'est ce qui qualifie un peu ce territoire un peu de manière exceptionnelle par rapport à d'autres guerres. Vous êtes complètement enfermé. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. Vous vivez sous les subsides de l'ONU, qui vont être coupés d'ailleurs. Donc cette jeunesse qui se mobilise de manière nouvelle et qui invente des formes nouvelles de mobilisation pour attirer l'attention de la communauté internationale, et en cela, elle a en partie réussi, mais à quel prix quand on voit le bilan ?
Xavier Guignard, je rappelle que vous êtes chercheur et spécialiste de la Palestine. Est-ce qu'on assiste vraiment à un mouvement spontané de la jeunesse gazaoui ? Si on entend les arguments du côté des autorités israéliennes, il pointe toujours la responsabilité du Hamas qui est au pouvoir à Gaza.
Je ne pense pas qu'un mouvement politique ait les moyens d'envoyer des gens à la mort. Aujourd'hui, il faut prendre au sérieux le fait que ce mouvement soit populaire.
Et donc incontrôlable d'une certaine manière aussi.
Mais parce que la situation l'est. Oui. Elle vient d'être rappelée à l'instant. La situation est incontrôlable. On a un territoire qui, depuis 11 ans, depuis 2007, est sous blocus égyptien et israélien, qui a été détruit en 2014 et qui n'a pas été reconstruit, et qui vivait jusqu'alors grâce à l'argent de l'ONU, effectivement, qui va diminuer, et l'argent de l'autorité palestinienne qui est réduit tous les mois par le président Mahmoud Abbas depuis Ramallah. Donc on a une population qui est complètement désespérée et qui nous dit là, je vais pas mourir à petit feu, je vais revenir d'où je viens, c'est-à-dire des territoires dont j'ai été expulsé en 48, ou à tout le moins, je vais montrer ce qui nous arrive. Le Hamas, finalement, ne fait que courir après cette mobilisation en appelant à la soutenir.
Il essaye de la récupérer, en quelque sorte.
Alors, la récupérer, je ne sais pas si le terme est fort, mais tous les mouvements politiques dans la bande de Gaza appellent la population à soutenir cette forme de mobilisation. Ce qui est symptomatique, jusqu'alors, le Hamas avait toujours été frileux pour soutenir des initiatives dont il n'était pas le commanditaire, et pour soutenir des initiatives...
Il n'était pas l'origine,
Dite populaire, c'est-à-dire que le Hamas avait toujours privilégié un mode d'organisation très différent de ce qui est en train de se passer. Il a conscience qu'en partie ça lui échappe, et ça a un goût, pour reprendre l'expression d'un Gazaoui, de 1987, ça a un goût de première intifada, ce qui est en train de se passer.
Donc on assiste peut-être à une troisième intifada ?
Alors j'en ai vécu déjà presque une dizaine de troisième intifada, donc je ne sais pas si
celle-là
est la bonne.
Donc il est difficile d'employer l'expression,
bien sûr.
C'est ça. On va écouter ce que disait hier Mahmoud Abbas, puisqu'on a parlé du Hamas, mais il y a le côté autorité palestinienne. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, qui a parlé clairement pour les événements d'hier de massacre.
Aujourd'hui encore, des massacres se sont produits contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. C'est l'une des journées les plus violentes que nous ayons connues. Nous nous réunirons donc dans les prochains jours pour prendre des décisions claires sur les questions liées à nos relations avec Israël, mais aussi sur nos relations avec les États-Unis ainsi qu'avec la communauté internationale. Nous allons aussi examiner nos relations avec les juridictions internationales, notamment la Cour pénale internationale, ainsi que la Commission des droits de l'homme.
Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, hier, Xavier Guignard, vous disiez à l'instant que le Hamas courait un peu après le mouvement des marches qui s'organise à Gaza et dont on a vu hier une illustration très violente dans sa répression. Est-ce que Mahmoud Abbas, lui aussi, est totalement hors-jeu par rapport à ce qui est en train de se passer ?
Il est très en deçà de ce qui est attendu de lui à Gaza. Vous imaginez le président d'un pays dont 58 personnes civiles ont été abattues par une armée étrangère et 1350 blessés, dont la seule réaction est d'appeler à la condamnation comme un président étranger. Finalement, ce que ça nous montre, c'est que Gaza est bien devenu un territoire étranger à l'autorité palestinienne.
Il y a une vraie séparation, oui, qu'il y a une vraie division.
Ouais. Alors la division, elle est évidemment provoquée par les Israéliens, mais la réalité politique de cette division nous est amenée tous les jours par le comportement des élites politiques de Ramallah, qui regardent ce territoire comme un territoire perdu, un territoire dont ils ne veulent pas s'occuper. Et Mahmoud Abbas fait le service strictement minimum, mais il ne faut pas se leurrer sur la façon dont c'est entendu à Gaza. C'est un sentiment d'abandon.
Sentiment d'abandon, vous nous dites ce matin, Xavier Guignard. Vous parlez de réaction à l'étranger, ça va nous mener à Bruxelles maintenant. En ligne avec nous, Pierre Benazé. Bonjour Pierre. Les cérémonies d'ouverture hier de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem ont ravivé les tensions au sein même de l'Union européenne. Aucun pays d'Europe occidentale n'était représenté hier. Trois ambassadeurs de pays de l'Union étaient présents. Une indication nette quand même des lignes de fracture qui s'affichent entre Est et Ouest, entre Européens. Donc sur la question, même si officiellement il y a unité, on peut même parler d'unité de façade, Pierre.
Oui, effectivement, on a vu le communiqué de Federica Mogherini hier. On a parlé de sa réaction tout à l'heure. L'Union européenne a sorti ce communiqué signé par elle pour appeler à la retenue, c'est tout, pas de condamnation, rien d'autre que demander de la retenue, que Israël respecte le droit à la des manifestations pacifiques, le principe de la proportionnalité dans l'usage de la force. Mais ça s'arrête là, en quelque sorte. On sent que les Européens sont pas capables d'aller plus loin parce qu'à 28, bientôt 27, ils ne pourront pas avoir un langage plus fort que ça. Et l'Union européenne retombe sur ses vieilles lignes, à savoir qu'elle veut continuer à travailler avec les deux parties et qu'elle recherche toujours une solution à deux États sur les frontières du 4 juin 1967. En gros, l'Union européenne ne va pas plus loin que de dire qu'il ne peut pas y avoir non plus d'ailleurs de représentation diplomatique à Jérusalem, puisque le statut n'est pas résolu. Et effectivement, il y a des vraies divisions. On a vu par exemple ce week-end, la présidence tchèque se vantait d'avoir fait capoter un projet de résolution de l'Union européenne pour critiquer l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem. Ce projet a capoté, emmené par la République tchèque, la Roumanie et la Hongrie qui ont voté contre.
Voilà, le Hongrois, le Tchèque, le Roumain, les trois ambassadeurs qui étaient présents hier à Jérusalem. C'est donc bien un signe d'une division Est-Ouest qu'on constate en Europe sur cette question.
Ah oui, très clairement. Comme vous l'avez dit, il n'y avait aucun ambassadeur occidental aux cérémonies. Ces trois ambassadeurs-là, c'est bien le signe qu'il y a une partie de l'Europe qui ne reconnaît pas, qui ne veut pas soutenir le langage utilisé jusqu'ici. On sait qu'en République tchèque, le président Miloš Zeman a toujours appelé au retour de l'ambassade tchèque à Jérusalem. Et quand Donald Trump l'a annoncé, il a dit « Donald Trump, suis mon exemple ». Et d'ailleurs, la République tchèque va ouvrir un consulat honoraire, pas un consulat de plein droit, mais un consulat honoraire à Jérusalem cette année, puis un centre culturel d'ici la fin de l'année. En Roumanie, la situation est relativement identique. Le président Klaus Iohannis a demandé la démission de la première ministre Viorica Dăncilă parce que elle avait annoncé le retour de l'ambassade roumaine à Jérusalem. Bref, c'est très tendu. C'est tendu d'ailleurs de la même façon sur l'aspect, sur le côté palestinien. Ouais. On sait que 9 pays de l'Union européenne reconnaissent l'État palestinien, 9 pays dont la Suède, sachant que les 8 autres sont des pays d'Europe centrale, orientale et méditerranéen qui avaient reconnu la Palestine avant d'entrer dans l'Union européenne.
Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. On entend bien au travers du tableau que vous dressez une Union européenne empêtrée dans ses divisions. Dans ce contexte, Xavier Guignard, est-ce que l'Europe peut avoir un rôle à jouer dans les événements qui sont en train de se dérouler?
Elle va jouer le rôle qu'elle a toujours joué, c'est-à-dire de sponsor économique d'un processus de paix qui n'existe plus et faire démonstration d'une impuissance absolue politique. Ce qu'on a entendu est effarant. Ils répondent à une question qui n'est pas posée en parlant du processus de paix et de la solution à deux États. Ils ne répondent pas à la question qui leur est posée. Que fait-on face à 58 civils tirés à bout, pas portant, mais tirés par des snipers et 1350 blessés? Rien. Voilà la réponse que l'Union européenne nous offre. Rien, on ne fait rien, on ne dit rien. Alors on va dire un peu, mais on va absolument rien faire. Et c'est assez caractéristique finalement de la position de cette Union dans le conflit. C'est une litanie de déclarations dont on pourrait faire l'exégèse aujourd'hui, qui condamne, qui révoque, qui dénonce, mais dans les faits qui ne s'offre pas les moyens politiques à la hauteur de son implication économique. Et ça, c'est grave.
Pas de poids politique du côté de l'Union européenne au Proche-Orient?
Aucun, en tout cas, sur ce dossier-là, aucun. L'Union européenne reste convaincue d'une solution dont on disait tout à l'heure qu'elle n'existe plus pour aucun acteur, qui est la solution à deux États telle qu'elle est formulée en 93. C'est comme s'il y avait une incapacité à penser ce qui se passe devant nous et ce qui va arriver demain.
Et à imaginer une solution. On le disait tout à l'heure, les États-Unis se retrouvent de fait en quelque sorte hors jeu, ne peuvent plus être médiateurs de ce conflit. On rejoint l'un de nos correspondants aux États-Unis, Eric De Salve. Bonjour Eric.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Au milieu de la nuit pour vous, on va dire que ce transfert de l'ambassade américaine du côté de Jérusalem, c'est une décision qui fait plutôt consensus dans la classe politique américaine, chez les républicains comme chez les démocrates.
Oui, d'ailleurs ce transfert c'était une vieille promesse de campagne aux États-Unis, Arnaud, une promesse formulée par plusieurs anciens présidents, des républicains bien sûr, comme George Bush en 2000, mais aussi des démocrates, Bill Clinton en 1992, Barack Obama en 2008. La différence c'est que une fois élu, tous avaient renoncé à le faire. Donald Trump lui a tenu promesse 6 mois à peine après avoir reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en décembre dernier. Du coup aux États-Unis, même dans les rangs démocrates, effectivement peu de voix s'élèvent contre cette décision. D'ailleurs, au Sénat, dans un très rare élan de communion avec Donald Trump, le leader des élus démocrates a même félicité le président américain, dont il est d'habitude très critique. C'est une décision qui n'a que trop tardé, a déclaré Chuck Schumer. J'ai soutenu cette législation il y a 20 ans et j'applaudis le président Trump pour l'avoir fait.
Alors, ce qui fait débat, ce qui a beaucoup fait parler en tout cas aux États-Unis, Eric, c'est la présence à Jérusalem hier de deux pasteurs évangéliques très contestés.
Oui, deux pasteurs controversés depuis des années, justement en raison notamment de leurs propos anti-judaïques. Dans le passé, l'un a notamment déclaré que les juifs étaient voués à l'enfer et l'autre que l'Holocauste et Hitler faisaient partie d'un plan divin pour rendre Israël aux juifs. Ce sont pourtant ces deux pasteurs évangéliques texans, Robert Jeffress et John Hagee, qui ont inauguré et clôturé par une prière la cérémonie d'inauguration de cette ambassade américaine à Jérusalem. Parce que ces deux hommes sont aussi parmi les plus fervents partisans d'Israël, et ce pour aider à la réalisation de prophéties bibliques, car dans leur vision eschatologique de l'histoire, le retour des Juifs à Jérusalem est un des signes annonciateurs du retour de Jésus sur terre. Bien sûr, en transférant l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, Donald Trump envoie aussi un signal à cette frange religieuse de son électorat conservateur.
Et quelle réaction concernant précisément ce qui s'est passé à Gaza hier et une cinquantaine de morts, des milliers de blessés?
Peu de réactions côté gouvernement, alors que le bilan affichait déjà une quinzaine de manifestants tués. Donald Trump tweetait tout simplement « Un grand jour pour Israël, félicitations » sans un mot pour ces morts palestiniens. Un peu plus tard, première réaction de la Maison-Blanche lors du point presse quotidien pour soutenir le gouvernement israélien. La responsabilité de ces morts tragiques est directement le fait du Hamas qui a cyniquement provoqué cette réaction, a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche. Évidemment, les médias américains, eux, n'ont pas manqué de relever le le contraste entre ces images de fêtes, de sourires, d'applaudissements dans l'enceinte de la nouvelle ambassade américaine avec celle chaotique 50 kilomètres plus loin, des dizaines de manifestants palestiniens tués sous les balles de soldats israéliens.
Merci Eric De Salve, en direct avec nous des États-Unis. Les États-Unis qui ont donc pris fait et cause pour la position israélienne, l'Europe qui est empêtrée dans ses divisions. Où est l'issue, Xavier Guignard? Qui peut jouer le rôle de médiateur aujourd'hui?
Vous venez de le dire, les États-Unis ont quitté leur rôle de médiateur, mais c'est surtout parce qu'ils ont annoncé la fin d'un conflit qui se réglera par des négociations telles qu'on les connaît depuis 1993.
Il y a un plan promis par Donald Trump, un plan de sortie de crise, dont on n'a encore rien vu d'ailleurs, mais il y a un plan promis.
Voilà, donc c'est difficile de le commenter, sachant qu'effectivement, on n'a jamais eu la moindre ébauche de ce plan. Effectivement,
mais comme d'habitude, il promet que ça va régler. Let's make a deal, comme il dit pour tout problème. Il va régler la solution en investisseur, en entrepreneur.
Ce qui est certain, c'est que même du côté palestinien, il y a cette croyance, encore aujourd'hui, en tout cas à Ramallah, que si une partie peut un jour contraindre les Israéliens à signer un deal, ça sera les États-Unis. Donc il y a cette croyance à la fois, enfin cette appréciation ambivalente du rôle des États-Unis, à savoir, on sait que depuis le début, c'est pas que Donald Trump le fait de façon exagérée, mais depuis le début, on a un négociateur malhonnête, disons très clairement, pro-israélien, mais en même temps, c'est le seul qui est capable de les contraindre. Et ça donne un poids particulier aux Américains. Et c'est en ça que les Européens n'ont pas su saisir leur chance. Ils n'ont pas su s'inviter à cette table. Ils n'ont pas su avoir un pouvoir de contrainte et de proposition. Les États-Unis sont un très, très mauvais in-between, mais c'est le seul aujourd'hui qu'on ait encore.
Personne d'autre.
Personne ne se propose. Les Russes ont vaguement tenté au début de l'année dernière de s'immiscer dans les affaires inter-palestiniennes. Ouais. Ça a duré un mois, ils en sont revenus. Ils préfèrent s'investir sur d'autres dossiers, la Syrie, la Libye. Aujourd'hui, personne ne veut prendre ce rôle, et certainement pas l'ONU, à qui toutes les autres parties défendent de s'occuper de ce dossier en premier lieu. Les États-Unis restent aujourd'hui, malheureusement, pour les Palestiniens, le seul interlocuteur qu'ils peuvent avoir.
Vous parlez de l'ONU, il y a une réunion du Conseil de sécurité, une nouvelle, cet après-midi. Il faut en attendre quelque chose ou des paroles, comme d'habitude?
Alors, soit on va avoir des paroles, soit on pourra rajouter une ligne à la longue liste des résolutions de l'ONU qui auront été bloquées par veto américain. Le Conseil de sécurité est incapable, de par le poids du veto américain, de prendre une position ferme sur ce dossier.
Alors, puisqu'on passe en revue les éventuels médiateurs puis les réactions, il y a aussi la Ligue arabe qui doit se réunir demain, je crois, et un silence quasi assourdissant jusque-là par rapport aux événements d'hier.
Les temps ont changé. La Ligue arabe, comme la plupart des pays arabes, n'ont pas été remarqués ces derniers jours ou ces dernières semaines dans le soutien qu'ils ont apporté aux Gazaouis. Alors, on a de temps en temps.
Et pourquoi cette discrétion?
Alors, d'une part, je pense parce que Gaza, encore plus que la Palestine centrale, mais Gaza a disparu de l'agenda régional. De temps en temps, les Gazaouis, comme hier, arrivent à faire parler d'eux. Mais aujourd'hui, les regards sont portés ailleurs, sont portés en Syrie, sont portés au Yémen.
Il y a d'autres crises qui paraissent plus importantes, c'est ça?
Surtout d'autres crises dans lesquelles ils peuvent jouer un rôle. Je pense qu'il y a aussi l'idée que c'est la question palestinienne pour eux est une question dans laquelle ils ne peuvent pratiquement, ou ils ne se donnent pas les moyens d'avoir un poids, et dans laquelle il est trop périlleux politiquement de s'engager. Le Qatar, marginalement, va contribuer au développement économique parfois. La Turquie l'a fait. On a parfois comme ça des initiatives qui émergent, mais on n'a aucun front commun de la Ligue arabe. Les explications sont multiples, mais alors les dissensions régionales sont évidentes.
Elles sont évidentes, oui.
La relégation, on disait, de la question palestinienne, le fait de ne pas vouloir s'impliquer aujourd'hui dans ce dossier-là.
Une lassitude aussi. On a essayé, on n'a pas réussi jusque-là. Et ça fait des années que ça dure.
Mais on se demande quand est-ce qu'ils ont essayé en réalité. Pendant très longtemps, la question palestine a été brandie par la plupart des dictatures arabes comme un sucre donné à des opinions publiques à qui on ne pouvait rien donner d'autre pour leur propre demande. Donc on leur offrait des paroles menaçantes sur la question palestinienne. Aujourd'hui, cette ruse est éculée. Donc je pense qu'ils hésitent même encore à la jouer. Et sachant qu'ils n'ont pas d'autre moyen que de n'avoir des paroles sans acte, aujourd'hui, finalement, ils n'ont plus de paroles. ça fait belle et lurette qu'ils n'avaient plus d'actes pour la Palestine.
Merci Xavier Guignard pour cet éclairage. Vous restez avec nous. On va écouter ce que nous dit la presse française de ce jour après ces événements. Tous les journaux font bien sûr leur une sur la situation à Gaza et en Israël. Frédéric Couteau.
Oui, une ambassade et un massacre. C'est le grand titre de Libération ce matin en forme de constat. Une inauguration en grande pompe d'un côté, plus de 50 morts et des centaines de blessés de l'autre. Le grand jour pour Israël, célébré par Trump, aura été particulièrement meurtrier. Pour Libération, pas de doute, les provocateurs sont bien Donald Trump et Benjamin Netanyahou qui, en célébrant le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, actent symboliquement l'abandon du projet d'un État palestinien crédible. Et les dirigeants palestiniens ont épuisé le peu de crédit dont ils bénéficiaient encore auprès de leur peuple. A fortiori, poursuit Libé, auprès des Gazaouis, enfermés tels des bêtes sauvages entre mer et barbelés, sans eau ni travail, ceux-là n'ont rien à perdre. Et ce ne sont pas les appels à la paix de Trump qui vont les calmer. Il faut avoir un orgueil démesuré ou être d'un cynisme absolu, pointe encore Libération, pour oser prononcer le mot paix après avoir mis le feu au territoire. Il y a là le tragique symbole d'une impasse, soupire la croix. Le naufrage du processus de négociation engagé dans les années 90 aboutit à une situation explosive entre Israéliens et Palestiniens. Dans ce contexte, la responsabilité des partenaires internationaux est d'aider à la recherche d'une issue, non de mettre de l'huile sur le feu. C'est pourtant ce que vient de faire Donald Trump en décidant de changer la plaque d'un bâtiment américain de Jérusalem. Lui, conclut la croix, n'a pas pris grand risque, contrairement à ceux qui sur place tenteront un jour de sortir de cette impasse.
Et dans la presse régionale, on hausse le ton.
Oui, pour West France, la décision américaine de transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem sans aucune contrepartie à ce jour connue. Cette décision n'est pas seulement contraire à l'esprit de cette décennie de diplomatie, c'est un geste incendiaire dans une région qui ne manque déjà pas de braise. Un geste qui éloigne toute médiation possible côté palestinien. Trump a écrit l'histoire, s'enflammait hier Monsieur Netanyahou, oui c'est vrai, mais dans le sang. Aujourd'hui, le président des États-Unis se comporte en incendiaire au milieu d'un champ d'explosifs, renchérit la voie du Nord. Le moment choisi par Trump pour combler son allié Netanyahou ne pouvait être plus dangereux, relève Sud-Ouest, tandis que les Israéliens battent des mains devant ce cadeau de l'oncle Sam pour les 70 ans de leur État. Les Palestiniens, eux, pleurent la grande catastrophe que fut l'exil de centaines de milliers d'entre eux en 1948 et ils peuvent à bon droit se demander si l'Amérique de Trump a prévu pour eux la moindre compensation en échange de son coup de force pro-israélien. Enfin, les États-Unis abusent-ils de leur hégémonie ? S'interroge le Figaro, sans aucun doute, répond le journal. Climat, commerce, nucléaire iranien. Donald Trump finalement n'en fait qu'à sa tête. La suprématie militaire américaine lui permet d'imposer ses règles aux entreprises et aux États étrangers. Obama et Bush en faisaient autant, conclut le Figaro, mais sans pour autant déchirer les traités.
Frédéric Couteau, la revue de presse, ce que disait la presse française ce matin de ces événements. Xavier Guignard, c'est une journée à haut risque qui s'ouvre, on l'a dit. Peut-être une mobilisation palestinienne plus faible qu'hier, nous disait tout à l'heure notre correspondant Guilhem Deltey. Est-ce qu'on peut attendre du côté des Israéliens la modération à laquelle appelle une partie de la communauté internationale ?
J'ai pas l'impression que les Israéliens soient très sensibles à ce que la communauté internationale demande.
Est-ce qu'il peut y avoir une prise de conscience modération à l'intérieur d'Israël ? Quelques titres, quelques éditoriaux de la presse israélienne, Michel Paul nous disait tout à l'heure, font état quand même du problème d'image évident qu'il y a eu hier. L'image est perdue, la bataille de l'image était perdue du côté israélien hier.
Ce que Vincent Lemire rappelait en début d'émission, c'est que c'est exactement la même chose qui s'est passée au début de la répression il y a 6 semaines. On pensait que modération il y avait. Or, hier, il y a eu plus de morts en une journée que depuis 6 semaines. Rien ne nous laisse penser aujourd'hui qu'ils vont changer leur fusil d'épaule et qu'ils vont changer leurs règles d'engagement. On fera le bilan probablement triste à la fin de la journée, mais il n'y a aucune raison d'être optimiste ce matin.
Merci Xavier Guignard, chercheur spécialiste de la Palestine au sein du groupe de réflexion Noria. Merci pour tous ces éclairages tout au long de ces trois quarts d'heure d'édition spéciale. Merci aussi à Muriel Parra, donc, qui m'a soutenu pendant ces trois quarts d'heure.